7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Aujourd'hui, la scolarisation des enfants réfugiés, une seconde urgence. Ils viennent du Mali, de la Centrafrique, du Sud-Soudan, de Syrie, d'Irak. La liste est interminable, mais pour tous ces enfants, retourner sur les bancs de l'école, c'est le premier symbole d'une vie normale, presque normale. Pourtant, dans les camps ou dans les villes et les villages où les familles trouvent refuge, partout, les places manquent pour ces enfants-là. Alors faut-il prendre en compte l'accès à l'éducation comme une seconde urgence? Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission au 33 1 84 22 71 71. Nous allons en parler avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. William Spindler est porte-parole du HCR en France et Soha Boustany de l'UNICEF au Liban, premier pays d'accueil des réfugiés syriens. Mais tout de suite, reportage en cette première partie d'émission. Scolariser les enfants Touareg du Mali, c'est l'objectif de toute une vie, celle d'Ibrahim Aga Sarid. Ce Malien Touareg avait ouvert en 2002 l'école des Sables Saint-Exupéry à Taboy, un petit village à 80 km de Gao, dans le nord du Mali. Plusieurs fois dans l'année, Ibrahim sillonnait la région avec son 4x4 pour aller chercher les enfants Touareg dans les différents campements des familles nomades pour les scolariser. Et 10 ans plus tard, l'école est largement reconnue au Mali. Elle est même citée en exemple dans toute la sous-région. Elle compte alors à l'époque 112 élèves, dont 42 filles, ce qui est un exploit, 7 enseignants dont le salaire est pris en charge à l'époque par le ministère de l'Éducation au Mali. Mais tout s'effondre en 2012 lorsque les islamistes investissent le nord du Mali et en juin 2012... Ibrahim Aga Sarid décide de quitter le pays avec sa femme et ses 3 enfants. Il emmène avec lui quelques élèves de son école et il récupère en route ceux qui ont fui le pays avec leur famille. Au total, 22 enfants trouvent refuge avec lui à Ouagadougou, au Burkina Faso, le pays voisin, dans un collège privé. Une oasis pour enfants Touareg, loin du désert. C'est un reportage d'Alice Milo.
On est arrivé chez nous, à l'internat et à la maison. Vous avez la cour.
La maison, elle est divisée en 2 parties, hein, c'est ça?
La maison, elle est divisée en 2 parties. Il y a 15 grands qui sont dans l'autre côté. Et les 11 petits et moi, nous sommes dans cette partie-là.
On enlève les chaussures.
On enlève les chaussures. Vous avez ici la chambre des filles.
Là, on voit dans la maison, dans les chambres, bon, vous avez des nattes, vous avez les enfants ont des affaires, ils ont des jouets. Vous êtes venu avec tout ça?
Non, pas du tout. On ne pouvait rien amener. C'était un départ en cachette parce que c'était les djihadistes qui tenaient la ville et qui nous ont fait partir, qui ne voulaient pas d'école française, certaines matières, l'éducation civique et morale, la biologie, les mathématiques, la philosophie, tout ça, au fur et à mesure, ils faisaient des restrictions. Moi, je ne pouvais pas faire sans ces matières-là, sinon quel diplôme il faut donner à la fin. Donc moi, mon objectif, ce n'est pas un simulacre d'école. Ils sont venus déjà piller l'école. Donc une fois, ils sont rentrés dans l'école, ils ont pris tout ce qu'ils veulent prendre. L'éclairage solaire, les lampes solaires, les panneaux solaires, tout ce dont ils ont besoin, ils ont tout amené. Il y avait interdiction de musique, interdiction que les filles soient mélangées aux garçons.
Et il y avait un contrôle?
Depuis qu'ils ont commencé les flagellations, les amputations, les choses se faisaient tout seules. À chaque fois qu'on entend une voiture arriver, on se dit que c'est eux qui arrivent comme ça. Même s'ils ne contrôlaient pas psychologiquement, personne n'osait tricher.
Vous avez pris la voiture et vous êtes parti avec 25 enfants sous le bras, en fait.
Oui. Si je n'amenais pas les enfants, ils risquent d'être enroulés comme enfants soldats. Ces enfants-là, ils ont un minimum d'apprentissage. Ce minimum-là peut être une attraction. Les djihadistes, ils ne sont pas bêtes. Ils veulent des enfants ignorants. Ils veulent aussi des enfants qui ont un certain petit niveau. Même pour faire une bombe, il suffit de savoir 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Voilà, un enfant qui sait faire ça est un enfant qui fait une bombe rapidement ou qui lit une consigne ou qui écrit une lettre ou qui compose un numéro. Voilà.
C'est déjà l'heure d'aller à l'école?
C'est l'heure d'aller à l'école.
Je m'appelle Bissara Agatahar, j'ai 15 ans.
tes parents, en fait, t'ont confié à Ibrahim, c'est ça ?
Oui, oui, ils m'ont confié à Ibrahim parce qu'ils ont confiance en lui. Ils savaient que l'école compte beaucoup pour moi et aussi pour lui. Donc, ils m'ont envoyé avec Ibrahim. Je crois qu'un jour, ça me servira à faire d'autres choses que de faire l'élevage.
Tes parents, ils font de l'élevage ?
Oui, oui, ils font de l'élevage chameaux et puis vaches et puis les moutons et les chèvres. J'ai pas envie de faire l'élevage. Lorsque je termine l'école, je vais être un juge ou un ministre. Je sais pas si un jour je réaliserai mon rêve ou pas. Mais avec Ibrahim, je crois que mon rêve sera déjà réalisé.
Donc là, on part sur le chemin de l'école.
Là, on est sur le chemin de l'école. C'est 2 km à pied. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas une école normale. C'était une école en crise. Une école sous le choc.
Pour vous, quand vous êtes arrivé au Burkina Faso, vous êtes venu ici avec quel objectif en fait ?
Pour sauver l'école des sables, sauver tous les efforts investis, ces efforts des dizaines d'années, ces enfants qui ont un jour laissé leur mode de vie, un jour laissé leur famille pour nous rejoindre dans le désir d'apprendre. Chacun a sa manière de se rebeller. Moi, je me suis rebellé contre l'ignorance. Et voilà que la guerre a tout freiné. Donc je ne pouvais pas laisser tous mes efforts, tous mes sacrifices, tout ce que j'ai donné partir comme ça. Au moins, je vais quand même amener un petit échantillon. Comme ça, l'échantillon sera l'ambassadeur de tous mes sacrifices, de tout ce que j'ai eu à faire.
Qu'est-ce qui se serait passé pour eux si vous ne les aviez pas emmenés ici à Ouagadougou pour poursuivre leur scolarité? Quelles auraient été les conséquences pour eux?
Bon, il faut savoir que l'école avait 142 enfants. 25 sur 142, ce n'est rien. Donc on va se baser sur ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés, quand on a des nouvelles d'eux, c'est des nouvelles tristes parce qu'ils retournent à quelque chose de très banal, de très quotidien, c'est-à-dire chercher de l'eau au puits, revenir, s'occuper des cabris, c'est tout.
Des chèvres.
Et des chèvres, voilà. Ils vont vers un avenir qu'ils n'ont pas choisi. C'est un beau dessin.
Attention.
J'ai laissé des enfants que j'aime beaucoup. J'ai laissé des enfants qui sont très intelligents. J'ai laissé des enfants que je vis arriver, ne sachant même pas tenir les crayons. Et 8 ans plus tard, les voir, savoir écrire, lire.
Vous avez l'impression d'un gâchis ?
Un véritable gâchis. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un collégien, un lycéen dans la vie qui arrête les cours.
En tout cas, pour vous, quand vous êtes arrivé au Burkina Faso, votre priorité numéro 1, c'était scolariser les enfants.
Dès que je suis arrivé, je suis parti voir cette école-là. Il dit, voilà, j'ai 25 enfants. J'aimerais que vous m'aidiez à les scolariser. C'est les enfants qui étaient dans une école. Cette école, maintenant, n'existe plus parce qu'elle est occupée par les djihadistes. Donc, tout de suite, ils m'ont accepté. C'est un complexe scolaire protestant.
Donc, c'est un établissement privé, hein ?
C'est un établissement privé, oui.
Et pourquoi vous êtes allé dans cet établissement en particulier ?
Alors, c'est un établissement qui offre tout, le primaire, le collège et le lycée.
Donc, c'était pratique parce que vous avez des enfants qui vont de 6 à 16 ans, hein, c'est ça ?
Voilà. Donc, tous les enfants se retrouvent dans la même école. Et comme ils sont déjà séparés de leur famille, séparés de leur pays, donc si on les sépare dans différentes écoles, ça va être encore de la séparation et ça va encore leur créer...
Des traumatismes.
Des traumatismes, voilà.
Alors l'école, elle est payante ?
Ah oui, elle est payante.
Combien ça coûte ?
Ça va de 80 euros par an, 150 euros pour les lycéens.
Alors vous faites comment pour payer les frais d'inscription des enfants ?
On a une association française qui font des parrainages et les parrains payent la scolarité des enfants.
Et tu connais, toi, par exemple, qui est ton parrain ou ta marraine ?
Bernadette.
Elle s'appelle Bernadette, ta marraine ?
Oui.
Donc, ça y est, on arrive au collège, là ?
On arrive au collège. Allez-y dans les classes. On va vous retrouver dans les classes.
Allez, en classe.
Tous ces enfants, ils vont dans votre classe ?
Oui, oui, 100. 100, nombre de 100.
De quel niveau ?
Le CP2. On écoute. 6. Ok, asseyez-vous.
Vous avez combien d'enfants maliens dans votre classe?
C'est un nombre de 4. Ils ont tous la moyenne. Et ils ont un peu de difficulté au niveau de la lecture. De couper les mots en syllabes pour pouvoir lire. Et puis aussi, confondre certains sons.
Ils se sont bien intégrés dans la classe avec les autres camarades?
Oui, oui. Ils s'entendent bien, ils jouent ensemble, ils travaillent ensemble. Voilà. Il n'y a pas de discrimination. Hey, viens.
Debout. Le roi des rois
est de 4. C'est quel niveau là alors?
C'est le CM1, 5e année.
Vous avez combien d'enfants maliens dans cette classe?
J'ai un seul enfant, Aboubakrine. En tout cas, c'est difficile avec lui, puisqu'on n'a pas le même programme. Donc, ce qui a occasionné son redoublement. Il a repris la classe cette année. On espère que ça va aller cette année. Bon, il fallait qu'il s'adapte à tout ça avant de commencer.
Vous pensez quoi, vous, du fait que votre établissement ait accueilli des enfants maliens? Vous pensez que c'est important?
C'est important. On doit accueillir. On peut un jour aussi se trouver dans des situations difficiles. Et il faut que des gens aussi compréhensifs soient autour de nous pour nous accueillir. C'est la même chose.
Vous pensez qu'ils comprennent ces camarades de classe?
Pourquoi nous avons des Maliens parmi nous ici?
Les Maliens sont venus au Burkina à cause de la guerre.
Est-ce que c'est important pour le Burkina d'accueillir des Maliens parmi nous?
Parce qu'ils nous les aiment. C'est moi.
Voilà.
Tu allez, vite. Je compte jusqu'à 3. Je ne veux pas voir quelqu'un debout. Viens. Kili. Chrismi.
Ça fait combien de temps, en fait, du coup, qu'ils sont dans cette école?
C'est la deuxième année. Entre janvier et avril, le temps s'est arrêté pour les enfants presque. Parce qu'ils n'ont plus de nouvelles de leurs parents. Les réseaux ont été coupés. C'était la période des arrestations, des exactions. Et en sachant qu'il y a des bombardements, il y a des explosions, et vos parents sont dans ces champs de guerre. Et ça, les enfants, la majorité sont restés pendant 3 à 4 mois sans nouvelles. Donc ils peuvent se dire qu'une bombe peut tomber sur mes parents.
C'est des questions qu'ils vous posent?
C'est des questions qu'ils posent. Est-ce que l'armée peut arroser avec une rafale tout un campement? Est-ce que les Français peuvent bombarder un campement? Alors ces 4 mois, je vous dis qu'ils n'ont pas passé de très bons mois. C'est déconcentrant, c'est démoralisant. Ça handicape par rapport aux enfants de Burkina qui sont leurs parents et chez eux. Donc c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous. Donc c'est ce qui fait qu'ils ont passé la première année très difficile. Et là, cette deuxième année, tous les instituteurs conviennent avec moi qu'ils font de très très bons résultats.
Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils soient réfugiés, ça a encore aujourd'hui des conséquences sur leur travail scolaire?
Quand tu n'es pas chez toi, quand tu ne vois pas tous les jours tes parents, tu ne vois pas tes amis, cette absence d'une partie de toi fait que tu es moins concentré que ceux qui sont tous les jours dans leur famille. Ça, c'est sûr. Hein, c'est... Donc, justement, moi, je me donnais à fond. Parce qu'étant ici, je n'ai pas de travail. Mon seul travail, c'est les enfants, c'est les aider à surmonter, de les rassurer. Ils comprennent très bien pourquoi ils sont partis. Maintenant, pourquoi ils ne peuvent pas retourner? C'est ça qu'ils ne comprennent pas au début. Parce que pour nous, la guerre n'a pas fini. Les dangers sont multiples. Mais il y a aussi l'armée malienne. Elle a une très mauvaise renommée à travers des exactions. Donc ce n'est pas...
Vous voulez dire envers les Touaregs?
Envers les Touaregs, oui. Parce que l'ensemble des enfants qui sont là, c'est les enfants Touaregs aussi. Et la rébellion locale là-bas est Touareg aussi. Donc nous ne voulons pas être encore victimes dans l'amalgame.
Vous attendez que la situation s'assainisse pour rentrer?
Voilà. Parce que nous sommes des faibles. On n'est pas armés.
Et vous pensez que vous allez être obligé de rester combien de temps encore ici au Burkina Faso?
Alors, on ne sait pas. Normalement, on veut absolument retourner pour la rentrée 2014-2015.
Donc, septembre prochain?
Septembre prochain, on a très envie de rentrer, de retrouver nos parents, de retrouver nos écoles, de retrouver la vie de là-bas, ça nous manque.
Comment ça s'est passé, l'école?
Après midi, on a lu les livres et puis on a sorti les ardoises. On a écrit 3 fois, puis on a chanté, puis on a couru, puis on a sorti.
Tamidit dynastie gile souvenir namadou san Tamidit dynastie gile souvenir namadou san tigile Edward gile siuli vilatara.
C'est le samedi soir qu'on organise une soirée, on joue la guitare, on chante, on danse des fois.
On pose le thé dehors ici et puis on cause. Ici quand même on est bien.
Qu'est-ce qui vous manque finalement?
C'est nos parents seulement qui nous mènent.
À Tabo et là-bas, il y a le fleuve. Quand on mange à midi, on part se baigner au fleuve, revenir jouer au ballon. Tout est simple là-bas, quoi.
Là-bas, à Tabo, là, c'est comme un désert seulement. Il n'y a pas de bâtiment comme ça, là. Ce qui me manque beaucoup, là, c'est le fromage, quoi, du désert, là-bas, là.
Vivre sans tes parents, ça, c'est dur, quoi. Tes frères et tes sœurs, ils me manquent beaucoup, quoi.
Ça fait combien de temps que tu les as pas vus?
1 an et demi. Ils savent aussi que moi, je vais bien ici. Je suis heureux ici. Je suis en train de continuer mes études.
Vous ne regrettez pas d'être venu ici? Le plus important, c'était de continuer l'école?
Ouais. Plus ça passe, plus l'âge augmente. Si l'âge augmente, tu seras en retard, quoi. Si tu fais, par exemple, 4 ans ou 3 ans comme ça dans la même classe, ça nous fait très peur de redoubler.
Vous êtes très attaché à Ibrahim?
Ouais. Chaque jour, il nous conseille ici de ne pas se décourager. C'est comme un père pour nous, quoi.
Regardez, tout le monde commence à danser, là.
Oui, c'est parce que ça commence à chauffer.
C'est un vrai moment de famille, en fait, que vous partagez ce soir sur la natte, dans la cour de votre maison.
Voilà, chacun joue la guitare comme il peut, comme il connaît, comme il a envie. Si je suis jusqu'à ce que le sommet arrive. On oublie même qu'on est là. On pense qu'on est déjà là-bas, on a toujours été là-bas, que la guerre n'a pas existé, qu'on n'a pas été déplacé. La seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre culture.
Vous êtes un peu le papa de tous ces enfants.
Ouais, c'est pas facile d'avoir le poids de la responsabilité, du choix de ces enfants que j'amène comme dans un bateau. Ces yeux qui me regardent, mais en fait, ils regardent leur avenir, ce n'est pas moi qui le vois. Ce sourire-là, cet espoir-là, vaut tout l'or du monde.
Une oasis pour enfants touareg, loin du désert, c'était un reportage signé Alice Milo. Aujourd'hui, les élèves réfugiés d'Ibrahim Agassarid survivent grâce au financement de l'association française L'École des Sables. Des ressources évidemment très limitées, très précaires, une association qui a besoin d'aide. Vous pouvez d'ailleurs en savoir plus si vous allez sur le site écoledessables.com. Il reste environ 180 000 Maliens réfugiés dans les pays voisins, dont 49 000 au Burkina Faso, qui est le troisième pays d'accueil après la Mauritanie et le Niger. Bonjour William Spindler.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du HCR en France. Quel commentaire vous inspire ce reportage qu'on vient d'entendre?
C'est très émouvant d'écouter cet exemple de l'école du sable, ces efforts héroïques pour lutter contre l'ignorance, comme Ibrahim a dit, et aussi d'écouter les rêves d'un enfant réfugié qui rêve de devenir ministre ou juge. Et ça, je trouve formidable.
Il y a quelque chose d'atypique par rapport à la situation en général des enfants réfugiés ou pas? Parce qu'on les imagine toujours dans des camps.
Chaque situation est différente, bien sûr, et parfois les statistiques cachent ces histoires individuelles. Mais c'est vrai qu'il y a des exemples dans le monde des enfants réfugiés qui ont devenu justement des ministres ou des juges en Amérique latine, en Afrique, en Europe, un peu partout. Et ça nous donne de l'espoir. C'est bien sûr très important justement pour la reconstruction des pays après une guerre.
Et l'immense majorité des enfants réfugiés ne sont pas dans des camps justement, on va en parler. Vous restez avec nous après ce reportage, on va ouvrir la discussion. La scolarisation des enfants réfugiés, la seconde urgence de la Syrie à l'Afrique, on en parle juste après le flash dans un peu plus de 3 minutes sur RFI.